Le Seigneur est bon. Alléluia. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous tous qui êtes là. Peut-être certains pour la première fois, certains depuis beaucoup trop longtemps. On a oublié le temps qui passait dans la présence de Dieu. Je dis trop longtemps parce que nous nous habituons en fait à ces temps-là. Non, ça va. Il y en a qui me disent non, ça va, je suis rassuré. J'aimerais entamer peut-être pas une série, mais en tout cas peut-être deux épisodes d'une prédication qui tient à mon cœur. Depuis longtemps, je le prêche et à chaque fois, c'est une redécouverte de ce texte. Un texte que vous avez lu des centaines, de milliers de fois pour les plus matures dans la foi. J'ai utilisé un mot poli, vous avez vu. Ce texte est tiré d'une des paraboles de Jésus dans Luc 15. Nous lisons donc cette parabole qui commence par « Un homme avait deux fils ». Cette prédication, si on peut afficher le titre, Chantal, s'il te plaît, cette prédication s'appelle « Dans la maison du Père ». Dans la maison du Père. Alors, on pourrait faire des parallèles entre la présence de Dieu, l'Église, venir dans cette maison et appeler ça la maison du Père. Je crois qu'il y a plus. Je crois, en tout cas, quand je lis la parole, il y a plus à considérer qu'un bâtiment. Il y a la présence de Dieu.
Si on peut lancer le son, c'est parti. Heureuse surprise, la technique est avec
moi. Au sein d'un club privé. Comme ils ne comprennent pas, ils leur racontent une parabole bien connue.
Un homme avait deux fils.
Jésus participe ensuite au banquet des chefs religieux.
Ouais, et il leur reproche leur arrogance, comme s'ils constituaient l'élite réunie au sein d'un club privé.
Comme ils ne comprennent pas, ils leur racontent une parabole bien connue.
Un homme avait deux fils.
L'aîné est digne de confiance et honore son père.
Quant au cadet, c'est une autre histoire. Ce dernier se rebelle, ramasse tout son héritage et part pour un pays éloigné, où il gaspille tout son bien en festoyant et en vivant dans la débauche.
C'est alors qu'une famine survient dans le pays et le fils commence à manquer d'argent. Pour survivre, il est obligé de s'occuper des cochons de quelqu'un. Il a si faim qu'il cherche même à manger la nourriture des cochons. Il se dit en lui-même, « Si je suis fermier, autant rentrer chez moi et travailler pour mon père. Au moins, je ne serai pas obligé de manger la nourriture des cochons. » Il se met en route pour la maison de son père pour lui demander pardon.
De son côté, le père est certain que son fils n'a pas survécu à la famine. Mais un jour, il aperçoit quelqu'un qui marche vers lui. C'est son fils, il n'est pas mort. Alors le père court à sa rencontre, le serre contre lui et l'embrasse.
Le fils commence à parler. « Père, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. »
Mais avant qu'il eût le temps de finir, le père appelle ses serviteurs et demande qu'on apporte la plus belle tunique, de nouvelles sandales et une superbe bague pour son fils. Il fait préparer les meilleurs plats pour un grand banquet, car l'heure est aux réjouissances.
Un peu plus tard, dans la journée, le frère aîné rentre après une dure journée de travail dans les champs et découvre que son insensé de frère, perdu de vue depuis longtemps, est revenu à la maison. Et qu'en plus, ils font la fête.
Alors il se met en colère. Et comprenez-le, il a été fidèle à son père pendant toutes ces années et jamais il n'a eu une telle fête en son honneur. Mais ce fils de la honte revient à la maison et est accueilli comme un roi. C'est dégueu. Il refuse de se joindre à eux.
Alors, le père sort retrouver le frère aîné et lui dit
« Mon fils, tu fais déjà partie de notre famille. Tout ce qui m'appartient est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir pour ton frère, parce qu'il était perdu et maintenant il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. »
Jésus veut que les chefs religieux voient les marginaux comme Dieu les voit, soit des fils et des filles à arracher des griffes de la mort.
La communauté du royaume de Jésus garde la porte largement ouverte à tous. Le seul critère pour y entrer est de s'humilier et reconnaître qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu. Et donc, le fait que les chefs religieux rejettent Jésus et sa bande traduit en fait le rejet du Dieu d'Israël.
Les chefs religieux n'aiment pas du tout ça. Et alors que le voyage de Jésus touche à sa fin, la tension est à son comble.
Ouais, il va monter vers Jérusalem pour célébrer la Pâque pendant qu'il complote pour le tuer.
Il y a plein de personnages qu'on retrouve dans cette histoire. Je voulais vous la montrer plutôt que de vous la lire, parce qu'on les écrit, on connaît même par cœur les formulations. Et aussi parce qu'on avait les enfants avec nous ce matin. Quels sont les personnages principaux que vous avez remarqués dans cette histoire? Allez-y. Il y a le père. Pas tout le monde, pas la même personne. Après, on a donné une réponse, on se tait. Après, le fils, deux fils, ok, ça va. C'est bon?
Alors Jésus, c'est lui qui raconte la parabole. Il y a les serviteurs. Qui d'autre ? Il y a les amis du cadet dans la débauche. Ok, ça va ? Et je crois qu'on a tout dit. Hein. Il y a les... Ouais, il y a les cochons. C'est vrai qu'il y a les cochons. Et moi, je rajoute un énième personnage, la maison. Et c'est pour ça que je parle de la maison du Père. Parce que je voudrais commencer par ce lieu. Ce lieu symbolisant, bien sûr, la présence de Dieu, symbolisant le royaume de Dieu qui démarre et est en... comment dire ? Sur la terre, nous pouvons vivre les prémices du ciel. Et parfois, juste d'imaginer ça, on se dit, mais qui est digne pour ces choses-là ? Dans cette maison, en fait, c'est le lieu central de l'histoire. Si vous observez bien, l'histoire commence à la maison, elle se finit à la maison. Cette maison, elle est traversée de toutes parts. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Cette maison, elle est centrale, mais ce n'est pas une maison. C'est la maison. La maison du Père. Et c'est dans cette maison que tout se joue. Quand je regarde la Bible et les nombreuses notions de la maison, d'un lieu, d'un endroit, moi, quand je regarde cette histoire, je vois une maison qui n'était pas semblable à la mienne. En tout cas, ma maman a essayé, mais elle était... Voilà. Moi, je vois une maison où règne l'abondance. Je vois une maison où il y a de la joie. Où on voit que même le plus bas des serviteurs qui... Alors, qui sont ces serviteurs dans cette parabole ? Est-ce que vous êtes posé la question un jour ? Eh oui, c'est les anges. Ils sont là au service du Père. Ils sont là et... On y reviendra après. Dans cette maison règne l'abondance. L'abondance. On voit que personne ne manque de rien. Une maison, normalement, c'est là où on règne en sécurité. La maison, c'est aussi, on ne va pas se le cacher, une part d'héritage autour duquel on peut se déchirer parfois sur la terre. Mais en tout cas, on va parler sur l'idéal de la maison. Cette maison que Dieu s'est construite, cette maison... dans laquelle il veut nous accueillir. Moi, quand je lis cette parabole, quand je la médite, ça me fait penser à l'Éden. Tout était parfait. Vous vous rendez compte que les problèmes ont commencé pour le cadet quand il est sorti de la maison. Et les problèmes ont commencé pour l'aîné quand il était où ? En dehors de la maison. Dans la maison, on voit des réjouissances, on voit des danses, on entend de la musique, on se réjouit, on mange à satiété et même le veau gras est tué. Dans l'Éden, les arbres étaient à profusion. Il n'y avait qu'à se baisser, ramasser, manger. Les fleuves abondent, les animaux tous réunis vivent dans un paradis. Dans la Bible, vous avez plein d'autres maisons. Et des noms ont été nommés. La maison du pain, la maison de la paix. Il y a même une ville, Jérusalem, c'est la cité de la paix, c'est ce lieu, un lieu où règne la paix. D'autres lieux sont à chérir sur nos cœurs. Quand on pense à une maison, quand je lis la Bible, je vois un refuge, une citadelle, une autre retraite. Et on pourrait en citer, en citer et en citer. Moi, je vois que ce qui est vital dans cette maison est en abondance. Je vois que la maison, dans ce moment-là, c'est normalement un moment propice à la transmission générationnelle, où les parents veillent sur les enfants et les enfants apprennent des parents, et qui vivent en communion. C'est un endroit où les enfants se sentent en sécurité, l'épouse en sécurité vis-à-vis du mari et vice-versa. Tout le monde, eh bien, la maison du Père peut être cela pour nous ce matin. Quand je vois, et je le dis, et on le voit dans ce texte de Luc 15, je vois aussi que la maison, même si on la quitte, peut devenir un refuge pour celui qui est dans la misère. Une maison accueillante où tous ceux qui souhaitent passer par la porte sont accueillis de manière sécuritaire, où le pain abonde. L'enfant va se souvenir dans Luc 15, verset 17, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. » L'abondance. Il se rappelle de ça, il dit « Je veux repartir chez mon père. » Il va réaliser que la maison du Père, c'est une maison d'abondance, une maison de bénédiction, une maison où règne la paix, la joie, il y a de la festivité, on se réjouit, on est bien ensemble.
Les problèmes de ce jeune garçon, bien sûr, n'ont pas commencé exactement quand il a franchi le seuil de la porte. Le problème, il était là. C'était son cœur, le problème. Mais alors que, et vous connaissez cette suite, il rentre, cette maison deviendra une maison de fête et de réconciliation. Dans ce deuxième acte, on entend, et le fils aîné entend des musiques et des danses. Ça devait sacrément danser pour s'entendre. Normalement, quand on danse, ça se voit. Mais là, il entendait de la musique et des danses. Il devait certainement avoir des cris de liesse, il devait avoir de la joie, des rires, des éclats de voix. Quand ce garçon, cet aîné, quand il s'approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. On peut voir toutes ces choses-là. Se dire, c'est bien quand même d'être dans la joie. D'être tellement libre qu'on peut s'exprimer en dansant. Ça dépend des cultures. Mais la vérité, c'est quand on est libre de ces mouvements. Sûr, il y en a, ils ne danseront jamais dans l'église, mais dans leur maison, dans leur salon, ils vont esquisser quelques pas de danse sur de la musique. Je vous respecte. Dans cette maison où règne la fête et la réconciliation, vous avez les habits, la restauration, la bague passée au doigt de ce jeune garçon restauré, des souliers sont mis là, il est complètement réhabilité. Ses habits de guenilles, ce qui puait le porc et la misère, ont été enlevés, il a été restauré. Dans la maison où règne la fête, la maison de Dieu, la maison du Père, on entend des bruits de musique et de danse. Il y a de la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie, mes frères et sœurs ? C'est pas toujours facile de le dire. Quand vient l'épreuve, l'adversité, quand tous nous abandonnent, c'est ce qui s'est passé. Ce jeune garçon s'est construit un réseau grâce à son argent. Alors peut-être vous ne le ferez pas ça, vous n'êtes pas des gens de vie de faste qui achètent champagne, qui vont de boîte en boîte, peut-être vous ne ferez pas ces excès-là. Mais à chaque fois que nous constituerons notre appui sur d'autres personnes grâce à nos atouts personnels, nous cultiverons notre solitude en dehors de la maison de Dieu, en dehors de la maison du Père. Voilà pourquoi ce matin, l'appel, il est là à rentrer dans la maison de Dieu. Dans la maison du Père. Et on peut se sentir chrétien né de nouveau et être un véritable serviteur et rester comme le fils aîné, en dehors de la maison du Père. Et voilà pourquoi l'appel ce matin, il est tendu envers celui qui n'est jamais et qui n'a jamais pénétré dans cette maison-là. Un jeune homme, un enfant, une personne âgée qui a fréquenté des lieux de culte, mais qui n'a jamais pénétré dans la maison du Père. Cette maison, c'est vrai que je mets en phase et je mets en avant la fête. Parce qu'il y a plus de joie quand une brebis est retrouvée. Il y a plus de joie. Et lisez les paraboles de Luc 15, elles se succèdent. Il y a plus de joie quand j'ai retrouvé cette drachme perdue, quand cette pièce qui me coûtait a été perdue, quand une brebis, une seule, est en dehors du troupeau. Il y a plus de joie. Pourquoi ? Parce que l'acte, il est le même. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui est en dehors rentre à l'intérieur. La drachme rentre dans son porte-monnaie. La brebis rentre dans son troupeau. Le fils rentre à la maison du Père. Est-ce que mon ami, depuis tout à l'heure, je te parle de joie, je te parle de liberté, je te parle de paix, et tu n'as rien de tout ça? Peut-être c'est juste une question de géographie mal placée. Tu es en dehors de la maison. Que dirais-tu de rentrer dans la maison? De revenir à la maison. Alors c'est vrai, je ne vais pas nous appeler tous des fils prodigues. Mais vous savez ce que ça veut dire, prodigue ? On l'a déformé avec le temps. C'est quelque chose qu'on perd. Non, c'est quelqu'un qui dilapide sans compter. Qui vit comme si le temps, sa santé lui appartenait. Quelqu'un qui vit selon ses projets. Ça, c'est un fils prodigue. Et Dieu pleure. Il voudrait que tous... nous puissions entrer dans la maison du Père. Que tous, chacun d'entre nous, qu'importe les années de conversion, nous puissions demeurer dans la présence du Père, dans la maison du Père, là où règne la joie, les fêtes, l'abondance des bénédictions spirituelles. Et depuis tout à l'heure, je précise que je ne parle pas d'abondance financière. Dieu attend. Et je sens qu'on arrive à un point névralgique où va demeurer la tension. Parce que la maison, c'est aussi quand on est à l'extérieur, aux portes, quelque chose de, avec une tension. Notre conscience est convaincue par le Saint-Esprit, mais nous nous leurrons en disant « Mais non, je suis un bon chrétien. Je ne suis pas dans la maison, en tout cas je flirte avec les parvis. Je ne suis pas au cœur des festivités. Je ne suis pas au cœur de la paix parce que je demeure dans le compromis. Les tensions sont là. Je voudrais bien être appelé le fils, mais je me comporte comme un serviteur. » Et c'est ce que va dire ce fils aîné. Il va dire « Mais depuis tout ce temps, je te sers. » Mais Dieu ne cherche pas des esclaves. Sans contredire la prédication de dimanche dernier. Jésus a dit « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vous appellerai mes amis. » Le grade sacré que tout enfant de Dieu devrait viser, c'est être appelé ami de Dieu. Fils du Dieu très haut. Est-ce que tu es vraiment fils et fille? Alors comporte-toi de telle manière qu'on te reconnaît comme un fils, comme une fille du Dieu. Et on ne va pas te mélanger avec des anges au service de Dieu. On ne va pas te croiser, on ne va pas te confondre, et pire encore, avec les amis du cadec dans la débauche. Parce que c'est ce qui se passe quand lorsque nous entretenons, lorsque nous cultivons notre compromis, lorsque nous vivons dans une mauvaise identité, quand nous n'avons pas compris qui nous étions, quand nous vivions comme si il fallait gagner le veau gras du Père en disant « Mais donne-moi !» Et c'est ce qu'il va reprocher au Père. En colère, à la porte de la maison, il va reprocher à Dieu. Et moi, je n'avais pas le droit à une petite bête pour me réjouir. Dieu va lui dire « Tout ce que j'ai t'appartient. » Il s'est comporté comme un simple serviteur, oubliant son identité. Et ce matin, il y a un appel pour les enfants de Dieu à l'être vraiment, à se comporter en tant que tel, de vivre de l'abondance des bénédictions de Dieu. Oui, Dieu nous a donné son esprit, nous l'avons déclaré « Tu es ma force. » Mais quand on compte sur nos propres forces pour nos combats personnels, nous faisons comme si le Seigneur ne nous avait pas donné cette force. Et nous sommes comme le fils aîné, des serviteurs seulement. Il y a des tensions, le fils aîné va se mettre en colère. Quand nous ne sommes pas dans la maison du Père, nous nous comparons. Quand nous ne sommes pas au cœur de la maison du Père, nous médisons, nous critiquons. Quand nous ne sommes pas dans la maison du Père, quand nous sommes à l'extérieur, nous reprochons à Dieu l'état de nos vies. Et nous reprochons à Dieu la réussite des autres. Ça vous dit, on rentre ensemble dans la maison du Père. Ça, je parle de la maison depuis tout à l'heure. Je survole un peu les personnages. Mais j'aimerais vraiment m'arrêter sur le Père lui-même. Parce que la maison du Père, elle est belle. Il y a tellement de bonnes choses, on l'a vu depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas de maison sans Père. C'est qui le propriétaire de cette maison? C'est le Père. C'est Dieu, le Père, qui a construit son royaume en envoyant Jésus. Quand je réalise que toutes ces choses peuvent être à la portée de tous ceux qui veulent passer par la porte, et qui est cette porte? C'est Jésus. Jésus est le seuil de la porte que nous devons franchir. Nul ne peut rentrer dans la maison du Père s'il n'a pas accepté que Jésus soit la porte de sa vie et qu'il ait tracé son itinéraire. Mon frère, ma sœur, tu perds du temps, tu te fatigues à chaque fois que tu traces ton itinéraire, que tu veux franchir tes portes, viens à Jésus. Viens à Jésus. Passe par Jésus. Demeure par cette porte qui est, c'est vrai, étroite. C'est vrai, elle est réduite. Oui, il faut se frayer un chemin et on ne peut pas ramener tout ce qu'on avait envie avec nous. Mais j'aimerais m'arrêter sur le Père. Le Père, vous l'avez dit très bien, vous l'avez repéré, c'est Dieu. Mais regardons un peu quelques traits de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Le Père, je vois qu'il est patient, il est généreux, il est accueillant, il est persévérant et il prône le pardon et la restauration. Ça, c'est le Dieu que j'ai rencontré. L'as-tu fait, mon ami? Dieu t'attend. Oh, oui, la première des choses que je peux dire, c'est que Dieu est patient. Et je pourrais donner le micro à plein d'entre vous en disant « Oh, combien Dieu, il est patient !» Oh, j'ai été long à obéir. Oh, j'ai été lent à plier le genou. Oh, Dieu a été patient. J'en suis la preuve vivante au bénéfice des prières de ma mère et de mon grand-père. Je dois ma conversion à ceux qui ont usé de la patience de Dieu dans leurs prières. Je crois que Dieu est patient envers toi. Dieu est patient même quand ses fils se comportent mal. Et les deux se sont mal comportés. Dieu patiente quand il nous voit nous éloigner. On ne voit pas un père essayant de dissuader son fils cadet en essayant de parlementer, le menacer. Parce que Dieu est patient. Il nous aime comme on est, même quand on a de très mauvaises idées. Même quand on considère Dieu mort, parce que c'est ce qu'a dit le fils cadet. Il a dit à son père, donne-moi la part d'héritage. À mes yeux, tu es mort. L'héritage, c'est quand le père décède. Il a dit à Dieu, tu n'es plus dans ma vie. Personne n'a dit cela dans sa vie aujourd'hui. Alors pourquoi nous nous éloignons de la maison du père? Parce que ce garçon a quitté la maison à partir du moment où il a considéré son père mort. Il a quitté la maison, il s'est éloigné. Le père n'a rien dit. Le père a donné le tiers de l'héritage à son fils cadet. Il lui a donné une part incalculable et il l'a laissé quitter. Oui, Dieu est patient, même au milieu des tensions fratricides. L'aîné va critiquer le fils cadet. Et heureusement qu'à nous, dans l'église, ça n'arrive jamais. Dieu est patient. Dieu est patient. Et Dieu est généreux. Ce fils qu'il a considéré comme mort, ce fils qui revient à mine basse, ce fils qui est comme immobile à des dizaines de mètres de la porte de la maison, et là comme cloué, convaincu par sa misère. Le père généreux, un papa oriental qui court, ça n'arrive jamais. Oh non, viens ici. Un père oriental dirait ça. Fils, viens là. Voilà ce qui se passerait un père autoritaire. Mais ce n'est pas le père que nous connaissons. Dieu court. Dieu court. Et Dieu court. Et il se jette au cou de ceux qui viennent avec un cœur repentant. Parce que Dieu est généreux. Il n'attend rien d'autre qu'un genou plié. Il n'attend rien d'autre qu'un papa. Il n'attend rien d'autre. Il s'occupe de tout le reste. Parce que sa patience, oui, s'accomplit dans sa générosité. Il restaure la plus belle des robes, un anneau carte bleue et carte d'identité en même temps. Parce que celui qui avait la bague au doigt, c'était pas les serviteurs. C'était celui avec qui il faisait alliance, qui reconnaissait comme fils. Et cet anneau, c'était aussi la carte bleue du père. Il avait crédit illimité, un chèque en blanc est offert. Celui qui a dilapidé tout l'héritage, enfin un tiers de l'héritage, méritait-il une seconde chance? Parce que Dieu est généreux et qu'il nous aime. Il nous accueille, il nous restaure, il met des sandales à nos pieds pour que nous puissions plus heurter des cailloux qui nous blesseraient. Et il tue le veau gras. Regardez juste un détail. Parce que Dieu est généreux, parce qu'il est persévérant et parce qu'il nous accueille, en nous disant « Bienvenue », et c'est ce qu'il va dire à ses deux fils, « Entre dans la maison ». Viens dans la maison. L'un l'a considéré comme mort, l'autre l'a considéré simplement comme un supérieur. Aux deux, il lui dit, entre dans la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Dieu est tellement patient, généreux, accueillant, qu'il est l'exemple même de la persévérance. Et dans sa souveraineté, et je vois l'action de la croix que Jésus est en train d'annoncer. Luc 15, versets 21, 20 et 23. Alors qu'ils étaient encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et il dit juste après, amenez le veau gras qu'on a engraissé. Regardez, pour engraisser un veau, on le faisait en mode rétro-planning. Il y avait un événement à célébrer et le veau était dédié à cet événement. Ce veau était tellement gras, ça fait longtemps qu'il attendait le père, mais il l'avait engraissé pour une chose, pour le retour de son fils. Qui a été préparé d'avance avant la fondation du monde pour nous faire entrer dans la maison du père? Ce veau gras, c'est le type de Jésus-Christ qui a été préparé, envoyé, sacrifié à notre place pour nous faire entrer dans la maison du Père. Parce que si Dieu est persévérant, il sait tout, il calcule tout, il attend ce moment où nous allons revenir pour nous offrir le pardon et la restauration. Et il va répéter en boucle à ses serviteurs. Il célèbre Dieu à chaque fois qu'il voit une personne rentrer dans la maison. Il célèbre avec les anges dans le ciel. Il y a de la musique qui s'intensifie. Les anges dans le ciel crient « Saint, 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 gloire à l'agneau !» Ils bénissent le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans la maison du Père, il va déclarer « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Dieu veut se réjouir ce matin. Et si ton cœur n'est pas en joie, viens dans la maison du Père, il va te communiquer la joie. Si tu es distant, loin du Père, viens, c'est lui qui va te faire rentrer dans la maison. Il attend que les enfants, ses filles, ses fils, ceux qui considèrent Dieu comme un supérieur, à qui ont une relation religieuse avec Dieu, quittent ce mode-là et rencontrent le Père. Veux-tu venir dans la maison du Père ? Si Dieu pardonne et nous restaure, il n'est pas là à mettre de côté la vérité. Il nous parle en vérité. Et c'est ce qu'il dit dans Luc 15, 24. Mon fils était mort. Ça ne veut pas dire qu'il l'a considéré lui comme mort parce qu'il l'attend à la porte de la maison. Mon fils qui était mort, il était mort par ses actions. Il avait des actions vaines, autodestructrices. Il allait à la mort. Et je pense que le père avait beaucoup de sagesse, de clairvoyance. Il savait que l'argent, même le tiers de l'héritage, ne suffirait pas à vivre une vie de débauche pour l'éternité. Et dans son cœur, certainement, et parce que Dieu sait tout, il voit notre misère aujourd'hui. Et même s'il nous considère comme morts, il nous appelle mon fils. Mon fils, ma fille, selon la création. Mais tu peux devenir fils et fille en entrant dans la maison du salut, la maison du Père. Est-ce que tu veux ce matin quitter ton quotidien pour rentrer dans la maison du Père où on commence à faire la fête, où on se réjouit d'être ensemble, on se réjouit d'être sauvé, réjouit de savoir que mon nom il est inscrit dans le livre de vie, réjouit de ce que à côté de moi il y a des gens qu'on va, avec lesquels je vais passer l'éternité. Et là, ce sera l'abondance de la présence de Dieu. Rien ne sera caché. Plus de cris, plus de larmes, plus de souffrances. Toutes les questions qu'on se pose sur Dieu, ses projets, nous seront révélés. Rien de secret. Tout est parfait. Voilà ce qui se passe quand je décide sur la terre de dire « je retournerai vers mon Père ». Alors ce matin, c'est vrai, de manière croisée, il y a un appel aux chrétiens et puis il y a un appel à ceux du dehors, ceux qui seraient comme le fils cadet, qui par le péché naturel ont déclaré « Dieu, tu es mort ». Mais à tous ceux qui connaissent le Dieu vivant comme un maître, un employeur, un chef, c'est le même appel de Dieu. Entre dans la maison du Père. À un moment, on ne peut pas tergiverser. Je peux connaître le Père de près, être aux portes de la maison, le voir de loin, entendre les bruits et les danses et la joie de tous ceux qui franchissent le seuil et rester dehors. Ce qui est glaçant dans cette parabole, excusez-moi de le dire, c'est que la parabole s'arrête où le fils aîné est à l'extérieur. Il existe une mauvaise fin pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Et je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur ta vie. Est-ce que c'est des passions cachées, des addictions, un péché que tu cultives, une situation matrimoniale, bancale, où tu sais que tu es dans le péché, un adultère, une relation malsaine avec une collègue de travail. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit met dans le doigt, dans ton cœur, peut-être un non-pardon dans ta famille. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur est en train de le faire dans nos cœurs. Parce que toutes ces choses-là nous empêchent de pénétrer dans la maison du Père. Toutes ces choses-là, c'est considérer que Dieu n'est pas assez bon pour me les pardonner, alors qu'il l'est. Dieu n'est pas assez bon dans ses projets, alors qu'il est généreux. Alors que nous pensons que Dieu a atteint sa limite de la patience, il l'est bien plus qu'on peut l'imaginer. Alors, j'ai parlé de la maison, j'ai parlé du Père. Je ne vais pas parler de tous les autres personnages, mais j'ai nommé entre les lignes les fils. Moi, j'ai renommé cette parabole la parabole des fils perdus. Parce que les points communs qu'ils ont, ces deux fils, les deux sont perdus. L'autre point commun, ils sont en dehors de la maison. En tout cas, à un moment donné, tous les deux sont en dehors. Alors, que faut-il espérer ? Si les points communs, on voit des hommes entiers, orgueilleux et oublieux de qui est leur père, tous deux sont accueillis dans la maison du père. Alors, peut-être tu te considères comme quelqu'un d'entier. Il n'y a pas de masque dans ta vie. Mais tu es sincèrement en dehors de la maison. C'est aussi un problème. Tu peux être entier, mais entièrement en dehors de la maison. Complètement religieux. Mangé par des rites et des dogmes chrétiens évangéliques. Tu peux être oublieux, te considérant comme serviteur au lieu de te considérer comme fils ou fille du Dieu Très-Haut. Tout ça t'amène à être en dehors de la maison. Mais la bonne nouvelle, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que ces deux gars, ils sont accueillis quand même. Le Père vient les chercher. À chaque fois, le geste est le même, les paroles sont les mêmes. Le Père sort. Et dans la maison du Père, là où la règne la sécurité et l'abondance, Dieu est sorti dans le monde des ténèbres de la nuit par Jésus-Christ. Il est venu au sein même du péché, nous offrant un avenir et en nous montrant la voie. Alors, si les deux ont des points communs, ils ont aussi des différences. Et c'est la dernière diapo que j'aimerais vous montrer, sur laquelle j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Les points différents entre les deux garçons, c'est que l'un est resté résistant, perméable au message de l'Évangile, à l'invitation du Père. L'autre a été repentant. Le premier, l'aîné, a été dans la comparaison. Ouais, mais les plans de Dieu pour moi, c'est pas la même chose. Et puis ceci, et puis toujours dans l'autre, l'autre, l'autre. C'est la cause de l'autre. Si je vais pas bien, c'est l'autre. Toujours l'autre. L'autre a été dans une introspection. Il est rentré en lui-même. Il a sondé son âme et son cœur. Et ça l'a amené à ne plus rester à l'extérieur. Parce que ce qui est sûr, c'est quand on reste perméable à l'Évangile et qu'on est sans cesse dans la comparaison ou dans la revendication en dire c'est la faute de l'autre, je reste à l'extérieur de la maison. C'est ce qui s'est passé dans cette parabole. C'est ce qui se passera dans nos vies. Si nous ne sommes pas ce matin repentants et dans l'introspection. Rentrer en nous-mêmes. C'est ce qui s'est fait. Il décida à un moment de rentrer en lui-même. Et c'est ce que je voudrais nous inviter à faire ce matin. Ensemble. Parce qu'il y a la maison du Père qui nous attend. Le Père est sur le seuil. Il est même venu jusqu'à nous. Nous sommes à quelques mètres de la maison du Père. Et je sais que ce matin, il y a des gens qui vont franchir le seuil de la porte. D'autres résisteront. Et on recommencera le dimanche prochain, et mardi prochain, et on prêchera, et on ne se lassera jamais jusqu'à ce que nous soyons tous dans la maison du Père. Parce qu'il y a plus de joie à pénétrer dans la maison du Père, parce que Dieu veut se réjouir de voir ses fils et ses filles qui étaient morts revenir à la vie, vivre la vraie vie de Dieu, vivre l'abondance et toutes les promesses, vivre tout ce que Dieu avait prévu de donner, le vivre vraiment. Est-ce que vous le voulez ce matin ? Alors si vous le voulez, je vais vous inviter à vous tenir debout, on va entonner un cantique tous ensemble, on va prendre le pain et le vin, et j'aimerais prendre ce pain et ce vin comme un temps d'appel avec vous ce matin. Bien sûr, tous ceux qui sont engagés dans les eaux du baptême comprennent que le pain et le vin, c'est se souvenir de cet acte d'alliance, et ok, ça vous le savez. Mais j'aimerais ce matin, même si tu n'es pas baptisé, non pas que tu prennes le pain et le vin, mais que symboliquement tu dises, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi maintenant. Je ne veux pas avoir un cœur repentant, un cœur résistant, mais un cœur repentant. Je ne veux pas être dans la comparaison et regarder aux problèmes des autres et dire que c'est eux qui m'ont provoqué ces problèmes. Et dire, ma vie, elle est minable, elle est ceci, elle est cela, à cause des autres. Mais je veux regarder à l'état de mon cœur. Et que ce matin, et on va prendre ce chant avant de prendre même le pain et le vin, et merci pour mes frères et sœurs pour votre activité. On va prendre ce chant en mode introspection. On va regarder à Jésus ensemble. Je vais considérer l'état de mon cœur, si j'ai besoin de venir au pied de la croix, comme tout à nouveau, pour franchir cette porte. Peut-être quelqu'un, ce sera la première fois. Sache que Jésus t'aime. Et le projet, les projets qu'il a formés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Juste repens-toi. Demande-lui pardon. Accepte son salut. Accepte cette grâce. Il te fera pénétrer dans sa maison, là où règne la réjouissance, la paix, la sécurité et l'abondance. Prions ensemble, si vous voulez bien. Alors que nous allons prendre ce pain et ce vin, alors que nous allons nous réjouir de ce que Dieu nous fait entrer une fois de plus, nous qui étions en bordure de la maison, Dieu nous fait rentrer dans la maison du Père, afin que notre joie soit parfaite, afin que notre paix soit parfaite. J'inviterai tous mes amis, tous ceux qui peut-être découvrent la foi, vous n'avez pas accepté Jésus encore, à le faire dès maintenant, car c'est un temps de joie où le Père est là, il nous fait entrer par Jésus-Christ pour entrer dans la maison du Père. Or ce matin, si dans ton cœur tu décides de demander pardon pour tes péchés, si tu confesses que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. Déclare-le maintenant. Et alors que les frères et sœurs qui prennent ce pain et ce vin vont élever une voix de reconnaissance de ce qu'ils sont joyeux d'être sauvés, heureux d'être appelés fils et filles du Dieu Très-Haut, alors que la louange va s'élever dans ce lieu, certains vont pleurer sur leurs péchés, réaliser qu'ils ont besoin de Jésus comme sauveur et passer de la mort à la vie. Est-ce qu'il y a ce matin des gens qui veulent vivre cela? Et alors que nous louons, peuple de Dieu, louez le Seigneur, alors que je m'adresse à ces amis qui sont là, toi qui peut-être as besoin de Jésus, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, voudrais-tu Jésus dans ta vie? Je t'invite à te lever devant ta chaise et on va prier ensemble, on va bénir le Seigneur de ce qu'aujourd'hui tu vas passer de la mort à la vie. Ce matin, tu vas accepter Jésus comme sauveur, comme maître. Tu vas accepter Jésus comme la porte qui te fait entrer dans la maison du Père. Accepte qu'il te restaure, accepte qu'il t'attrape dans ses bras pour te relever. Accepte-le, alléluia, alléluia. Oh, le veux-tu ce matin? Le veux-tu, toi enfant, toi ado, toi jeune? Ce message, il est pour toi. Ne laisse pas les années te consumer. Ne laisse pas et ne regrette pas. Oh, le Seigneur t'appelle maintenant. Jésus, alléluia, nous te bénissons. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait passer de la mort à la vie ce matin? Quelqu'un qui a besoin, peut-être quelqu'un qui vient à l'église depuis longtemps et qui n'a pas la joie du salut. Viens, accepte que Dieu t'amène dans sa maison. Là, commence à lui demander pardon peut-être pour cette joie qui t'a été volée. Cette joie, tu t'es laissé détourner, tu es dans la comparaison, la revendication, tu reproches aux autres ton malheur. Viens maintenant à Jésus, viens comme tu es, laisse le Père te conduire dans sa maison. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur, maintenant tu le fais. Seigneur, ce pain et ce vin, c'est un temps de joie. Mon frère, ma sœur, si tu prends ce pain et ce vin par habitude, maintenant réjouis-toi. Jésus est ton sauveur. Jésus est ton sauveur. Il est celui qui t'offre la joie. Il est le veau gras qui a été tué pour ton rachat. Celui qui est venu et qui est mort à ta place. Celui qui met dans la bouche du Père la joie de voir des enfants passer de la mort à la vie. Entrer dans la maison du Père. Réjouis-toi maintenant, peuple de Dieu. Élève ta voix. Bénis le saint nom de Jésus. Alléluia. Jésus, saute et...
Dieu parle d'une manière, il parle d'une autre. Dieu parle par des dons spirituels, il parle par sa parole, il parle par les louanges qui s'élèvent vers le Seigneur. Amen. Amen. Bon. En tout cas, que le Seigneur nous conduise toujours au cœur de sa maison. Amen. Qu'on puisse garder cette place-là et qu'on puisse la chérir, revendiquer cette place-là, parce que c'est la place des enfants. Amen. Amen.